J'avais une première question à vous poser, c'est qu'est-ce que c'est que le métier de géographe? En quoi ça consiste?
Très vaste question. Le métier de géographe, c'est la compréhension de l'homme sur la Terre. Voilà. Comprendre comment l'homme se déploie, occupe l'espace terrestre, se l'approprie, prédate, et comment l'homme s'organise par rapport du coup aux ressources, aux autres hommes, à la mobilité. La géographie, c'est comprendre tout ça.
Comment traverser une géographie quand on ne la voit plus? Un sens où fausse compagnie et tous les autres viennent à la rescousse. Qu'il s'agisse d'un accident de la vie ou d'un jeu, le mot d'ordre est le même. Accepter de lâcher prise et aiguiser nos sens. Être à l'affût du moindre signe afin de réinventer l'environnement qui nous entoure. Ils sont déficients visuels, géographes, enseignants de locomotion, preneurs de son ou metteurs en scène. Tous réinventent le paysage, leur imaginaire en étendard. Nos géographies. Épisode 2, la fabrique du paysage.
Je suis atteint par un symptôme qui peut arriver chez certains aveugles, malvoyants de naissance ou valides de naissance.
Enzo Civade, lycéen.
C'est que malgré le fait que j'ai perdu la vue, d'un point de vue biologique, il ne me reste rien. Et pourtant, j'ai l'impression encore de voir, comme si ma mémoire, à travers mes yeux, voudrait pouvoir retranscrire une image qui recompose à partir de mes souvenirs, pour pouvoir essayer quand même de garder une forme de vue. Du coup, je suis aveugle, mais j'ai l'impression de voir.
On dit que le cerveau, il imprègne la 3D. Hein, même dans la toute petite enfance, quelqu'un qui a vu tout petit, qui a vu bébé, son cerveau a imprimé la 3D. C'est déjà un acquis pour la suite.
Jean-Luc Boisnin, enseignant de locomotion.
Un enfant qui n'a jamais vu, un bébé qui n'a jamais vu, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de se représenter l'espace. Et là, il a tendance un petit peu à tout voir en deux dimensions et pas en trois dimensions. Donc en termes de représentation de l'espace, comme je disais précédemment, c'est très compliqué pour lui. Ouais. Donc forcément, ce sera un travail qui sera plus long, et puis donc du coup avec des séquences de travail plus restreintes, on va mettre l'accent sur des bases en fait, pour pouvoir construire après sa représentation, quelque chose de plus complexe. Nous, en tant qu'instructeur, on travaille beaucoup avec une plaque aimantée, donc c'est-à-dire qu'on a des aimants et le jeune va construire, ou la personne va construire sa représentation, par exemple d'une place ou alors d'une rue, voilà, il va le construire. Et en le vivant et en le construisant, c'est-à-dire en sachant qu'il y a la place du 8 septembre à quatre côtés, il va reprendre des repères sur chacun des côtés et pouvoir après savoir, en fonction aussi de la trajectoire des bus qui traversent en diagonale cette place, il va toujours pouvoir se situer sur un des quatre côtés.
L'entrée par la carte, du coup, elle est nécessaire parce que ça ne sert à rien de se retrouver dans une rue. On ne comprend rien.
Alexandre Moine, géographe.
Tout de suite, on a envie de faire marche arrière et de se dire « Mais je suis où exactement quand je suis dans cette rue ? Je suis dans quel quartier ? Dans quelle ville ? Dans quel département ? Dans quelle région ?» Voilà, si on est parachuté n'importe où, j'entends. Donc on est obligé de faire marche arrière et de revenir à la carte, de voir ce qui est autour. De voir le relief, parce qu'on ne va pas l'appréhender de la même manière si on est direct tout de suite dans le relief. On est face à une colline, mais c'est quoi cette colline? Je dirais elle est longue, elle est épaisse, elle est en profondeur, elle est environnée d'autres collines, il y a des vallées autour. Donc l'idée de prendre du recul, il est obligatoire, donc on rentrera toujours par la carte. Sinon, on est sur des détails et rien n'est compréhensible.
Pour l'instant, en locomotion, on fait ce qu'on appelle les trajets par explication en général. On va nous dire un point de départ, et après on va nous décrire tout le trajet qu'il faut faire. Prendre la troisième à gauche, puis à partir du rond-point, prendre la deuxième à droite, comme un GPS. Sauf que là, on a toutes les informations avant de faire le trajet. D'accord. Et après, on doit simplement le réaliser après, en reprenant repère sur les éléments qu'on nous a dit. Quand tu passes devant tel collège, tu tournes, etc. Et bien tout ça, on doit le mettre en place.
Donc avec cette méthode-là, finalement, tu redéploies dans ta tête une carte de la ville avec tout, quoi, toutes les circulations, tous les cheminements que tu as l'habitude de faire et dont tu as besoin.
Auquel, généralement, on va faire des schémas sur plaques aimantées en locomotion, en cours de locomotion, ouais. Ou des maquettes, des lectures de maquettes. Ici, les trajets par explication, c'est nous-mêmes qui nous faisons notre petite maquette personnelle du trajet. Sauf qu'ici, on va évidemment négliger tous les trajets qu'on ne prend pas.
Bien sûr.
C'est l'objectif d'être le plus optimal et de trouver les éléments qu'il nous faut.
Chacun a sa petite trajectoire, son histoire. Donc, on a des points d'entrée très, très variés. Et à partir de là, on doit multiplier, évidemment, les histoires. Puisque la réalité est tellement infiniment complexe, on a besoin de toutes ces représentations différentes pour essayer d'espérer en faire, pas du tout le tour, mais une approche qui soit la plus approfondie possible. Nous, en géographie, on utilise aussi les cartes mentales, quand même. Donc, il y a une part d'imaginaire que moi, j'introduis dans l'analyse d'un territoire. Le territoire vécu, représenté, c'est l'imaginaire individuel qui fait que une distance métrique qui vaut 10 km, elle est perçue comme longue ou courte, un paysage beau ou pas beau, etc., etc. Une infinité de choses qui font que se joue énormément d'imaginaire individuel et collectif derrière. Il y a des enfants qui vont surreprésenter le bureau de tabac parce qu'ils y achètent des bonbons et qui vont totalement ignorer le boucher qui est à côté. Mais ils vont dessiner en grand le bureau de tabac. Ils vont surreprésenter le petit parc parce qu'ils vont y jouer. Par exemple, dans des quartiers, quand je travaille avec des travailleurs sociaux en quartier prioritaire de la ville, donner aux habitants l'occasion de représenter leur quartier, c'est se donner la chance, par leur déformation, de voir ce qui compte, ce qui pèse, où on va surreprésenter la route parce que c'est bruyant, elle coupe en deux le quartier, par exemple. Et donc là, on va se dire, il y a un problème avec cet endroit, on va surreprésenter tel équipement, peut-être parce qu'on a une vision négative, ou au contraire, parce qu'il représente énormément. Mais donc, ça va dire énormément de choses, ces cartes mentales, de choses qu'on n'exprimerait pas par la parole aussi facilement. Voilà, et donc, on arrive des fois à des représentations très, très élaborées et intéressantes des lieux vécus par les gens. Et donc, ça dit beaucoup de choses pour ensuite projeter, pourquoi pas, des aménagements, des corrections de dysfonctionnements locaux, etc., etc.
On voit qu'il y a un souci de rendre la ville accessible pour toute personne, handicapée ou non. Ça, c'est une volonté politique claire. Après, ce qui se passe, c'est que des fois, moi, j'attire vraiment l'attention sur le fait que, par exemple, des bandes podotactiles, donc ce sont ces bandes alvéolées qu'on trouve au niveau des passages piétons, des quais, etc., pour prévenir du danger, il faut qu'elles soient aussi contrastées. Il ne suffit pas d'en mettre, mais si vous mettez du gris sur du gris, une personne qui est malvoyante, elle ne va pas trouver forcément le passage piéton facilement. Donc, ce que je dis des fois, c'est qu'il faut vraiment... l'esthétisation de la ville est une chose, mais n'oublions pas que les aménagements qui sont proposés doivent être au service des personnes pour lesquelles on les met dans la rue. Et y a des fois, voilà, y a des fois, c'est un petit peu, je me bats un petit peu là-dessus, s'il faut que ce soit utile pour les personnes pour lesquelles on les place, ces bandes. Voilà. La ville évolue tout le temps, donc forcément, nos pratiques doivent évoluer aussi, elles doivent s'adapter à la ville. La complexité, c'est que pour les personnes déficientes visuelles, elles ont besoin, comme je vous disais précédemment, le sens compensateur premier, ça va être l'audition. Et forcément, maintenant, on va vers des centres-villes de plus en plus piétonniers. Donc, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins de voitures, on va limiter aussi l'accès des bus, etc. Donc, on a un centre-ville assez calme. Et des fois, c'est presque plus compliqué pour les personnes en situation de handicap visuel. Ajouter à ça les modes de transport doux, comme on dit, c'est-à-dire les vélos, les trottinettes électriques, plus tout type d'objets à deux roues, voire des fois à une roue, qui se déplacent très rapidement et qui se déplacent sans bruit. Les voitures électriques, tout ça, c'est quand même une évolution, mais qui n'est pas très favorable aux personnes en situation de handicap visuel.
Moi, le son, disons que je le pratique d'une manière à ce qu'on puisse se passer de l'image. Je joue beaucoup là-dessus, dans mes interventions, dans la façon de mettre les gens en écoute, etc. Justement, parce que pour moi, le son peut bien sûr vivre seul, sans image. Et c'est ce qu'on a peu l'habitude, pour moi, dans notre société aujourd'hui, en tout cas, d'une manière générale, de l'utiliser comme ça.
Boris Jolivet, audio-naturaliste.
J'ai plusieurs thèmes, j'ai plusieurs pièces. Si, par exemple, j'en ai une sur la Loire, où je pars de la source à l'estuaire, c'est un voyage où on suit la Loire, je dirais que là, le schéma, il est classique, et je suis plus dans la correspondance des sons, quelque part dans la réalité de ce voyage, même si on part sous l'eau, etc. Et puis, il y a d'autres pièces où, effectivement, je vais jouer avec des matières sonores, donc des sons, au niveau naturaliste, qui n'ont plus rien à voir entre eux, mais qui vont là, du coup, je suis plus sur une composition, tout simplement, composition sonore, et donc je vais assembler des fréquences, des choses comme ça, pour créer un tableau. Et donc là, c'est quelque part le public, l'auditeur, va se créer avec son propre imaginaire, finalement, son paysage, en fait. C'est le son qui va permettre de comprendre, de sentir les choses, de comprendre où on est, ou s'il y a quelque chose qui arrive, etc., sans qu'on le voie. Mais c'est finalement, c'est la réalité. C'est ce qui se passe aussi quand on est, que ce soit en ville, en milieu urbain, dans un paysage, quel qu'il soit, le son nous amène des informations supplémentaires. Et notre oreille, en plus, elle est à 360 degrés. Donc on entend en plus tout ce qui peut se passer derrière. Il y a du relief dans le son, et c'est vivant. Et donc une ruelle, entre une ruelle et une avenue, l'acoustique n'est pas du tout la même. Et on va percevoir évidemment les choses. Et comme moi, un rouge-gorge qui va chanter en forêt ou dans des gorges ou sur un arbre en hiver, il n'aura pas du tout la même sonorité. Ça donne l'acoustique d'un son dans un lieu donne énormément d'informations. Je m'aperçois qu'il y a des fréquences, par exemple, ça peut être un oiseau qui va chanter. Il y a des fréquences qui ne se déplacent pas du tout de la même manière dans l'acoustique d'un lieu. Et je vais entendre des fois des aigus qui vont partir un peu plus à gauche et des médiums tout droit, alors que l'oiseau, il est placé au même endroit, lui. Mais il y a des mouvements dans les fréquences. Mais de sentir ça juste à l'oreille, c'est vraiment intéressant. J'ai déjà fait des diffusions, effectivement, pour des malvoyants. C'est clair que c'est puissant et les réactions sont vraiment intéressantes. Et je dirais qu'on se comprend. Eux, ils peuvent sentir un mur juste par le son. Hein. Un mur, un arbre, un gros quelque chose qui est devant eux par rapport à la résonance, à l'acoustique du son. Des choses que moi, je perçois et à mon avis, eux perçoivent bien mieux que moi. Le son est vraiment un guide.
Du coup, je fais du ski alpin depuis mes 5 ans. Et en tant qu'aveugle, on perd absolument toute notion de la piste. Je vois la piste comme quelque chose de très sombre, quelque chose émis du noir absolu, et le guide comme la lumière que je dois suivre. Cette guide, justement, avait un mégaphone dans le dos, auquel elle parle en continu, ce qui est épuisant pour elle, mais tout en skiant et en étant devant moi, elle doit me donner les directions par rapport à sa position, mais aussi les indications par rapport à sa parole. Et là, c'est tout un codage qu'on a pu définir auparavant, par exemple plus ou moins pour la vitesse, droite ou gauche évidemment, mais par exemple, il ne faut pas dire tout droit, il faut dire devant, parce que tout droit, ça peut se confondre avec droite. Mm-hmm. Et avec la vitesse, le vent, les bruits de frottement, c'est tout du codage qui s'installe pour pouvoir différencier les uns des autres. Boss, trou, plat, carve pour le carving. Et j'ai pu faire, grâce à ça, les Coupes de France et Championnats de France. J'ai pris pas mal de portes, mais c'était très amusant. Et j'ai fini dernier.
Nos géographies, un documentaire réalisé par Anne Bouchard. Avec Alexandre Moine, Jean-Luc Boisnin, Boris Jolivet et Enzo Sivad. Montage, mixage, Chloé Truchon. Musique originale, Pierre Payan. Ce projet de documentaire a reçu le soutien de la Maison de l'architecture de Franche-Comté, du CCAS de la ville de Besançon, du Rotary Club, du Lions Club Besançon Lumière et de l'association Valentin Ahuy. Thank you.